France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nouvel épisode de notre série « Qu'est-ce qu'un public ?» Nous parlons ce matin du journaliste face à son public. Aux États-Unis, dans le domaine qu'on appelle les études des médias, les noms de Walter Lippmann et de John Dewey désignent deux traditions d'analyse du rôle du journaliste. Lippmann est celui qui a toujours intimé aux journalistes de terrain notamment de restituer soigneusement la vérité factuelle, quelle que soit l'attente du public et quitte à le bousculer. En 1920, dans un article célèbre, Lippmann avait critiqué la couverture par le New York Times de la guerre à l'Est contre l'armée rouge. Il attendait des reporters plus de faits et moins de leçons de morale anticommunistes agréables au lectorat. Le nom de John Dewey, lui, est associé à une autre sensibilité, celle qui considère comme important pour une rédaction d'écouter les habitudes et les envies de son public, sa culture, comme on dit, quitte peut-être à faire participer le public à l'élaboration de certains articles. Cette expérience a été tentée par un courant des années 1990, appelé le public journalism ou le civic journalism, qui s'est revendiqué de John Dewey. La sensibilité Lippmann et la sensibilité Dewey peuvent être vues comme deux jambes importantes pour le journalisme, parfois en conflit l'une avec l'autre. Beau sujet de réflexion.
Comment rattraper ?
Mais pardon, il y a un petit problème. Alors c'est le sujet de réflexion que j'aimerais que l'on ait au moins à un moment ce matin, mais je reconnais d'emblée qu'il y a une difficulté, car le débat historique entre Lippmann et Dewey sur la notion de public a évoqué bien d'autres choses que le journalisme, et ce débat s'est noué autour d'un livre de Lippmann de 1925, Le public fantôme, au relent tellement méprisant pour le public qu'à beaucoup d'égards, Dewey a gagné d'avance. Quant au Lippmann, qui a pensé le journalisme, et notamment le travail des reporters, par exemple dans son livre « Liberty and the News », eh bien, il risque toujours, dans cette affaire, de passer à la trappe. Mais qui sait, peut-être arriverons-nous à parler de tous les enjeux. Bonjour Edoui Plenel.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur du site d'information Mediapart, où vous continuez à travailler comme journaliste après l'avoir présidé, et vous connaissez bien notamment les textes sur le journaliste du sociologue américain Robert Ezra Park, qui a été proche de John Dewey, mais qui cite aussi souvent Walter Lippmann élogieusement. Bonjour Barbara Stiegler.
Bonjour.
Vous enseignez la philosophie à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous avez analysé le débat Lippmann-Dewey dans votre livre paru chez Gallimard en 2019 intitulé « Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique » et vous y êtes d'ailleurs revenu dans un article de 2021 dans la revue Commentaires. Et bonjour Joël Zask.
Bonjour.
Vous enseignez la philosophie à l'université d'Aix-Marseille. Vous avez traduit en français aux éditions Farago le livre de John Dewey de 1927, « Le public et ses problèmes » tout en proposant une substantielle présentation de ce texte. Alors justement, Joël Zask, Dewey a-t-il vraiment écrit ce livre de 1927 contre Walter Lippmann ?
Je pense pas que c'était contre. En fait, la discussion avec Walter Lippmann a peut-être aussi servi de déclencheur à la rédaction de ce livre. Mais ce qui est important, c'est que Lippmann et John Dewey sont d'accord sur un diagnostic qu'ils font du public américain de l'époque. On est en 1920-1927. C'est-à-dire, ils sont d'accord. L'un l'appelle public fantôme, l'autre public décomposé. Et en fait, Lippmann comme Dewey vont porter sur ce public décomposé de l'Amérique de l'époque un regard assez pessimiste. Sachant que pour l'un comme pour l'autre, la complexification croissante de ce qu'on appellera les problèmes publics, le fait que nous puissions ici aux États-Unis ou ici en France être affectés par des problèmes qui se passent de l'autre côté de la planète, le fait que toutes sortes de ce qu'on pourrait appeler, ou ce que Lippmann d'ailleurs appellera, ainsi que James, les bigness se mettent en place. Les bigness, c'est la grande finance, le gros gouvernement, la grosse technologie, le gros journalisme aussi, pourquoi pas.
Oui.
C'est-à-dire, en fait, toutes ces institutions et ces organismes impersonnels et extrêmement lointain, complètement détaché de l'ordinaire des gens, complètement soustrait à leurs habitudes et à leurs capacités d'analyse. Tout ça, évidemment, fait émerger un public complètement chaotique, c'est-à-dire un public qui ne sait plus identifier ses propres problèmes. Donc oui. Les deux, ils sont complètement d'accord là-dessus.
Mm-hmm.
Ils n'ont pas amené les mêmes réponses.
Et d'ailleurs, Dewey fait un compte-rendu qui n'est pas méchant du tout,
du livre de Lippmann, Les fantômes.
Et il dit, j'analyserai ce problème à ma façon en 1927 dans Le public et ses problèmes.
Absolument.
Qu'en pensez-vous, Barbara Stiegler? Est-ce qu'on n'a pas tendance à durcir cette polémique entre Lippmann et Dewey, même s'il est indéniable qu'ils correspondent à des pensées politiques de la démocratie qui sont différentes?
Joël Zask a raison de dire que Dewey reprend une partie du diagnostic de Lippmann. C'est tout à fait juste. Et donc, Le public et ses problèmes n'auraient pas été possibles sans Le public fantôme, qui est constitutif du public et ses problèmes. Donc, pour le dire autrement, Dewey a une dette intellectuelle très importante vis-à-vis de Lippmann.
Qui a 25 ans de moins que lui, juste pour qu'on rappelle que c'est normalement, je veux dire, aussi bien Dewey que William James, et même Robert Park, ce sont des gens plus âgés que Lippmann, et donc c'est un jeune homme qui met un peu un pavé dans la mare au début des années 20 sur la question du public, en disant qu'il est quand même très très fantomatique.
Et un des points communs de leur diagnostic, je ne reviens pas sur les éléments qui ont été très justement rappelés par Joël Zask, c'est que l'un comme l'autre ne croit pas à la notion de peuple. C'est-à-dire que l'un comme l'autre pense la démocratie. Dans le mot démocratie, il y a le mot démos. Démos, on le traduit par peuple. Et la Révolution française, par exemple, à penser l'existence d'un peuple souverain. Pour Lippmann, et Dewey reprendra ce constat, en fait, le peuple est une pure fiction. La réalité de ce qu'on a sous les yeux, ce n'est pas un peuple, et encore moins un peuple souverain, c'est un, et plus exactement pour Dewey, des publics. Et à partir de là, les réponses, alors on va détailler le constat commun, j'espère, dans le cours de l'émission, en écoutant les textes aussi, peut-être.
Très bien.
Je commenterai avec plaisir.
Vous m'incitez à les lancer très tôt, je vais le faire.
Voilà. Mais les réponses, effectivement, seront totalement opposées. Donc, il faut arriver à entendre que ces deux personnes sont d'accord sur une partie du diagnostic, mais elles sont en désaccord total sur les réponses politiques à apporter, par contre.
Alors, l'appel du pied trop fort, Edwy Plenel, je vous ferai intervenir après la courte lecture de deux extraits, donc successivement. Et vous allez voir, il y a clairement un diagnostic commun. Walter Lippmann, d'abord, Le public fantôme, écoutez.
Le citoyen d'aujourd'hui se sent comme un spectateur sourd assis au dernier rang. Il a beau être conscient qu'il devrait prêter attention aux mystères qui se déroulent là-bas sur la scène, il n'arrive pas à rester éveillé. D'une façon ou d'une autre, ce qui se passe le concerne, il le sait bien. Qu'il s'agisse des règles et règlements omniprésents, des impôts à payer chaque année ou des guerres qui surviennent à l'occasion, tout conspire à lui rappeler qu'il est pris de toutes parts dans le cours des événements. Et pourtant, comment se convaincre que les affaires publiques sont aussi les siennes? L'essentiel lui en demeure invisible. Les lieux où tout se passe sont des centres lointains d'où des puissances anonymes tirent les ficelles derrière les grandes scènes publiques. En tant que personne privée, notre citoyen ne sait pas vraiment ce qui s'y fait, ni qui le fait, ni où tout cela le mène. Aucun des journaux qu'il lit ne décrypte ce monde de manière à le lui rendre intelligible. Aucune école ne lui a appris comment se le représenter. Bien souvent, ses idéaux sont en décalage avec lui. Et ce n'est pas d'écouter des discours, d'énoncer des opinions et de voter qui le rendent capable pour autant de tenir les commandes. Il s'en aperçoit bien. Il vit dans un monde qu'il ne peut voir, qu'il ne comprend pas et qu'il est incapable de diriger.
Et maintenant, voici, toujours lu par Nicolas Berger, un extrait de John Dewey, Le public et ses problèmes, 2 ans plus tard, en 1927.
l'accès aux moyens de divertissement est devenu beaucoup plus facile et meilleur marché que dans le passé. L'époque actuelle de prospérité pourrait ne pas durer. Mais le cinéma, la radio, les imprimés superficiels, les voitures et tout ce qu'ils représentent ne disparaîtront pas. Qu'ils ne soient pas nés du désir délibéré de détourner l'attention des intérêts politiques ne diminue pas leur efficacité à le faire. Les éléments politiques de la constitution d'un être humain, ceux qui sont en rapport avec la citoyenneté, sont poussés dans un coin. Dans la plupart des milieux, il est devenu difficile de soutenir une conversation sur un thème politique. Et quand la conversation s'engage, elle est rapidement écartée avec un bâillement. Évoquons maintenant des questions de mécanisme et marque de voiture, ou la question des mérites comparatifs des actrices. Et le dialogue repart avec vivacité.
Bon, c'est quand même une certaine apathie et un manque de curiosité que l'un et l'autre, Lippmann et Dewey, observent chez la plupart des gens, dans ce qu'on appelle communément le public. Et Lippmann en déduit quelque chose que ne déduit pas Dewey, c'est qu'il ne faut pas trop lui demander à ce public. Tout au plus peut-on miser sur son intelligence, c'est quand même un mot qu'il emploie à un moment donné, malgré des mots très méprisants par ailleurs, en disant que son idéal le plus élevé, je cite, c'est que l'opinion publique, à certains moments graves, défende, quand il faut qu'elle arbitre, ceux qui sont prêts à agir selon leur raison, contre l'intrusion de ceux qui ne cherchent qu'à imposer leur volonté. C'est-à-dire, elle peut éviter le pire à certains moments par un vote, mais guère plus. Qu'en pensez-vous, Edwy Plenel ?
Moi, je vais répondre de là où je parle, hein, et je trouve très très bien de faire cette conversation qui nous sort d'une vision très repliée franco-française de ces débats. Donc je parle depuis le journalisme. Le premier point, pour moi, autour de ce dialogue, affrontement que vous mettez en scène dans cette émission, c'est de rappeler quelque chose qui est antérieur pour moi, hein, qui est cette prise de conscience dans la deuxième révolution industrielle, la presse de masse, et qui rejoint aujourd'hui ce que nous vivons avec le numérique et le digital, de l'opposition entre le public et la foule. Il y a pour moi, avant ces textes américains, il y a un texte européo-américain qui est de justement Robert Ezra Park, qui fait « La foule et le public », c'est sa thèse qu'il va faire, il est de culture allemande et il va la faire dans l'Alsace occupée par l'Allemagne. Et il
1904.
Rencontre, en 1904, hein, « Masson Publicum », et il rencontre d'ailleurs quelqu'un qui va être une grande influence, qui est Georges Simmel, qui enseigne là. Et puis l'autre, qui est trop oublié en France, c'est Gabriel Tarde, hein, qui fait lui aussi une réflexion qui est juste avant, hein, qui est 1901, et qui est l'opinion et la foule.
Hein. Dont nous avons parlé dans un épisode.
Oui, bien sûr. Et donc, pour moi, pour dire très simplement, je dis d'où je parle, je pense que c'est une réflexion fondatrice et qui a été au cœur d'un sursaut dont j'ai été porteur avec d'autres, face à la logique d'audience, face à ceux qui disaient que l'information devait être gratuite sur Internet, et qui du coup étaient dans une logique de foule, et non pas dans la construction démocratique de public au pluriel, qui passait par l'adhésion à tel ou tel média, le fait qu'on ne soit pas anonyme, le fait qu'on ait des visages, le fait qu'on soit dans une salle, dans un lieu, et non pas dans la foule, et dans son anonymat qui est destructeur de toute conversation publique. Le deuxième point, et là je pense qu'il ne faut pas faire d'opposition abstraite et de faux procès à Dewey ou face à Lippmann, la construction de public suppose de mettre la connaissance au cœur de cette construction.
Oui.
Donc le rapport à la réalité, oui. Donc le rapport aux faits, et on en revient au travail du journalisme. Ne jamais oublier que Dewey fait en 1938 sa théorie de l'enquête, qui est un livre que tout journaliste devrait lire, c'est un livre de philosophie, qu'il fait, je le rappelle, un an après avoir été celui qui a présidé la commission contre le mensonge au nom des idéaux soi-disant progressistes, en l'occurrence les mensonges staliniens. C'est Dewey qui préside la commission qui blanchit Trotsky et qui détruit les procès de Moscou, l'imposture énorme, hein, du crime stalinien. Et la troisième remarque, pour terminer, c'est que après et je pense que c'est cela que vous vouliez introduire. Après, il y a le débat politique et la divergence politique. Moi, je suis plutôt du côté de oui, même si je suis d'accord, Park fait le lien, mais du point de vue politique, il y a, et la suite le montrera chez Walter Lippmann, une perte de confiance dans la démocratie. Dewey fait quand même ce livre Une foi commune en 1934, qui est un appel au sursaut et que le New Deal rooseveltien va accompagner. Est-ce que nous avons encore confiance en la démocratie? Qu'est-ce que c'est que construire une démocratie? Ce qui rejoint Joël Zass, vous avez fait un très beau livre qui s'appelait Participer au bord de l'eau, sur ces questions-là. C'est-à-dire la démocratie, on est au cœur de notre crise aujourd'hui, ce n'est pas simplement la représentation électorale, ce n'est pas simplement la délibération parlementaire, c'est des pouvoirs, des contre-pouvoirs, c'est une vitalité, c'est la possibilité de penser contre soi-même, donc c'est un lien qui se construit dans une interaction avec la société, et de ce point de vue, je pense que Lippmann, qui, comme vous le savez, il y a ce colloque de 1938 à Paris dont il n'est pas, mais qui, au fond, anticipe ce qui va donner après-guerre, l'ordolibéralisme allemand, cette idée, au fond, que la démocratie, c'est un problème. Et nous voyons bien qu'à force de dire que la démocratie, c'est un problème, nous laissons la démocratie produire des monstres. C'est ce qui se passe sous les yeux de tout le monde aux États-Unis aujourd'hui, avec l'avènement d'une présidence, pour moi, fasciste, qui va détruire, y compris, qui veut détruire la culture démocratique américaine, la culture de libéralisme politique américain, s'en prendre à la presse, s'en prendre à la justice, revenir à un verticalisme très français, par ailleurs, très bonapartiste. Donc, voilà, c'était les trois points que je voulais dire. Il y a quelque chose de fondateur. Notre métier doit construire des publics et ne pas être du côté de la foule. Ça, c'est... Laissons ça à Monsieur Musk et au fascisme du numérique. Deuxièmement, mettre au cœur la connaissance, le savoir, et ça, c'est la responsabilité du journaliste. Le journaliste, c'est pas produire des opinions, c'est, vous l'avez écrit Géraldine dans un très fort livre, c'est produire des faits, des éléments, des pièces du puzzle, recoupées, sourcées, documentées, qui font réfléchir et qui amènent à discuter. Et puis après, ne pas penser que la démocratie, c'est le privilège des sachants qui seraient au-dessus du peuple. Pour dire vrai, Dieu sait si nous avons des cas où, à force de se dire sachant, eh bien, on ne veut pas voir la vérité, y compris nous les avons sous les yeux. Regardons combien d'autorités, depuis un an, n'ont pas voulu voir les crimes contre l'humanité commis dans sa guerre de vengeance par l'État d'Israël, jusqu'à ce que la justice internationale soit obligée de le dire, et de le montrer. Et Dieu sait si nous avons des sachants qui n'ont pas voulu voir le travail des journalistes qui montraient cet terrible événement que nous vivons depuis un an.
Je propose qu'on revienne au fond un des points que vous avez évoqué là, puisque nous parlons du public et de la polémique, encore une fois, qu'il ne faut pas forcer entre Walter Lippmann et John Dewey. Je voudrais que vous nous expliquiez, Joël Zass, comment Dewey, qui fait le même diagnostic que Lippmann, une certaine apathie du public américain, comment en 1927, il dit... il défend une vision participative. Est-ce que vous trouvez que le livre de Dewey est suffisamment précis, détaillé, ou bien ne met-il qu'en jeu une confiance, comme l'a dit Edouard Plenel, à partir de laquelle, néanmoins, tout un tas de problèmes, puisque c'est le titre de son livre, se posent?
Ben, en effet, je pense que le public et ses problèmes, c'est un peu ce que John Dewey dit de la démocratie, c'est une tâche à accomplir, c'est quelque chose qui est devant nous, c'est un peu les grandes lignes de ce qu'il faudrait faire pour qu'un public se reconstruise. On a pas mal dit de ce livre qu'il ne donne pas vraiment d'indications très concrètes, ce qui est possible, mais en réalité, John Dewey pense la démocratie comme une culture et c'est à la reconstruction d'une culture démocratique qu'il travaille.
Et pourquoi croit-il que justement, pardon, je voudrais que vous m'aidiez, parce que j'avoue que j'ai lu très souvent ce livre, d'autres aussi de Dewey, il y a une confiance extraordinaire dans le fait que le public peut participer, peut s'éduquer, etc. Il le dit, il le martèle, mais qu'est-ce qui justifie cette tant de foi, pour reprendre son expression à lui, puisqu'il évoque une foi commune? Qu'est-ce qu'il fonde?
C'est un humanisme, déjà, c'est-à-dire la possibilité pour les êtres humains en général de s'entendre via l'établissement des faits, c'est-à-dire la connaissance, la science. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Donc, il croit beaucoup en l'enquête, ça, vous l'avez dit. C'est une chose. Et puis, d'autre part, je dirais que la preuve est dans le pudding. C'est-à-dire que soit la démocratie...
très, très dit, oui, ça, oui.
Soit la démocratie passe par une participation effective des individus qui la composent, soit c'est plus une démocratie. Et donc, si on veut... Enfin, il y a deux phrases, je pense, dans Le Public et ses problèmes qui sont très éclairantes. Le premier, c'est que... il n'y a pas d'État sans gouvernement, mais il n'y en a pas non plus sans public. Et donc, la distinction entre État et gouvernement, déjà, elle est fondamentale, on ne la fait pas suffisamment. Ensuite, qu'est-ce que c'est que le public qui va compléter le gouvernement et qui va lui servir en quelque sorte à la fois de source de légitimation, de constitutionnalisation, d'interlocuteur, etc. Voilà, c'est ça la question que pose Le Public et ses problèmes. Mmh. Ensuite, il y a une deuxième phrase, moi, que j'aime beaucoup. Il dit « La démocratie n'est pas une manière de s'associer parmi d'autres. C'est la seule manière de vivre ensemble. Il n'y en a pas d'autre, en fait. » Et je pense qu'aujourd'hui, en 2024, quand on regarde autour de nous, on se dit que c'est lui qui avait raison. C'est-à-dire que, moi, quand j'ai commencé à travailler sur les textes de John Dewey, c'était il y a quand même 30 ans, on me riait un poney. Je veux dire que la question de la participation des oui. citoyens ordinaires à la vitalité politique n'était carrément pas à l'ordre du jour. Oui. Aujourd'hui, c'est devenu presque normal de le dire. Mais pourquoi ? Pas parce qu'on a changé d'idéologie, parce que la preuve est dans le pudding, encore une fois. C'est-à-dire que on assiste effectivement, de toutes parts, évidemment à un dégonflage des croyances démocratiques d'un côté, à cause de toutes sortes d'événements dont on ne va pas parler ici, mais par ailleurs à des initiatives en termes de production de connaissances, en termes d'invention de vivre ensemble, en termes de création d'alternatives à ce que le système nous a imposé, qui repose entièrement sur la participation active de chacun, chacun avec ses compétences, chacun avec son point de vue. Chacun compte pour un en démocratie, disait John Dewey. Enfin, c'est quelque chose qu'on rappelle. Et donc, soit on arrive à fédérer toutes ces initiatives et à les utiliser comme un ferment d'une culture commune, soit il n'y aura plus de démocratie. Mais en fait, on en est là. Effectivement, le danger qu'il n'y ait plus de démocratie est très très fort aujourd'hui.
Comment vous voyez, Barbara Stiegler, cette position de Dewey, pro-participation, très confiante? Et est-ce que vous pensez, comme Joël Zask, que la preuve est dans le pudding, vous l'avez dit deux fois, c'est-à-dire que notre monde... montre que ça marche, que les gens participent correctement à la démocratie. On pourrait faire un diagnostic un peu différent, mais qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, alors pour vous répondre, je voudrais revenir sur le diagnostic commun et en même temps sur ce qui les sépare dès le diagnostic.
Oui, bien sûr. Allez-y.
Donc, le diagnostic commun, on l'a dit, c'est que on n'a pas un peuple souverain déjà prêt à gouverner, qui gouvernerait, etc., qui serait le souverain. Mais on a un public épars, éparpillé, décomposé, ça a été dit. Et donc, il faut partir de cette notion de public. Ça, c'est ce qu'ils partagent. Mais après, ils sont en désaccord dès le diagnostic. Mmh. C'est-à-dire que Lippmann, dans le texte que vous avez fait lire tout à l'heure, Lippmann a une série d'affirmations avec lesquelles Dewey n'est absolument pas d'accord. Pour lui... le public, déjà, c'est une masse d'individus isolés les uns des autres. Et le texte qui a été lu tout à l'heure, j'espère que les auditeurs s'en souviennent parce que c'était il y a déjà 10 minutes.
Vous connaissez bien la radio, vous. Hein.
Voilà, le texte, il est vraiment au singulier. Un spectateur isolé. Alors, ce spectateur, il est dans une salle de théâtre, mais incroyable, de manière absolument incroyable et complètement discutable, il ne constitue pas un collectif. Il est tout seul sur son siège. Il s'ennuie terriblement. Et donc, c'est un spectateur, c'est le citoyen d'aujourd'hui. Donc, on a un agrégat d'individus. Et Lippmann est incapable de penser autre chose que ce qu'il appelle aussi une masse. Un agrégat d'individus, un tas de sable, en quelque sorte, parfaitement malléable. Pour Dewey, c'est pas du tout le cas. Je reviendrai tout à l'heure. Il y a, dès la phase publique, avant même que la démocratie se déploie, on a des capacités collectives très fortes dans le public, ce qui sont complètement déniées par Lippmann. D'autre part, Le diagnostic de Lippmann, ce public, il est passif, totalement passif. Alors que chez Dewey, il est capable de se mettre en action. Il est capable de se mettre en action. Donc, Lippmann ne voit pas du tout les potentialités d'action du public. Il ne voit pas du tout les potentialités collectives du public. Mmh. Ensuite, autre point, chez Lippmann, le public est composé d'individus incompétents. Mmh. Le texte est tout entier, scande tout entier cette incompétence, cette incapacité à comprendre, cette incapacité à... chez Dewey, au contraire, le public a des capacités et des compétences extraordinaires.
J'ai juste une question
la différence. Et enfin, le public chez Lippmann, il est et il sera toujours en retard. Il est retardataire. Mm-hmm. Il parle de décalage ici. Et donc, c'est parce que le public retarde, et plus généralement, il ira plus loin dans des écrits ensuite, l'espèce humaine est en retard, dans des écrits aussi antérieurs, où il le disait déjà. Pour lui, l'espèce humaine est en retard. Le public est en retard parce que l'espèce humaine est en retard. Alors, ce retard qui est posé comme tel fait que la seule manière de le conjurer, c'est d'avoir des gouvernants, un gouvernement éclairé par d'expertise, dans lesquels il y a aussi les journalistes, qui conduisent ce public, de toute façon complètement retardataire et incompétent, dans la bonne direction, et qui le fassent à partir d'un matériau totalement malléable et passif. Alors que chez Dewey, le public, il a des capacités spontanées, d'auto-organisation, il a la capacité de se sentir lui-même comme le même public, parce que nous ressentons ensemble, nous éprouvons ensemble que nous avons le même problème. C'est comme ça que se lève un public. C'est d'abord dans le fait de ressentir ensemble que nous éprouvons un problème commun. Donc, je nuancerai ce que vous disiez sur le fait que tous les deux prêtent au public l'apathie. Je ne crois pas qu'il y ait d'apathie dans le public dueyen. Il y a des problèmes dans le public dueyen dire il y a des problèmes, ça prête à confusion, parce que le problème est constituant, constitutif et très positif. Il y a des défections dans le public dueyen dont on hérite aux États-Unis, dans ce régime électoral abstentionniste, etc., bien sûr. Mais il y a des potentialités à l'intérieur, natives à l'intérieur de ce public, à partir desquelles Dewey va pouvoir dire, quand je vous parle de la démocratie, ce n'est pas une espèce de vœu pieux d'idéaliste naïf, une espèce d'utopie, mais bien quelque chose qui est réellement dans les capacités du public. Donc, ça veut dire capacité de se sentir soi-même, de s'éprouver soi-même comme collectif en éprouvant un problème commun, premièrement. Ensuite, capacité de se mobiliser, de se mettre en action pour se mettre en branle, pour résoudre ce problème commun. Capacité d'enquête, quand même. C'est-à-dire, tout le contraire, capacité épistémique extrêmement forte, alors que chez Lippmann, c'est l'incompétence épistémique radicale. Et enfin, l'État, parce qu'effectivement, Joël Zask a raison, il y a un État et un gouvernement qui ont leur place, mais ils ne sont là qu'à condition de servir le public et ses problèmes, et ils doivent absolument pas capturer le pouvoir, sinon il va falloir qu'il y ait une révolution. Et malheureusement, bien souvent, il faut en passer par là, parce que les officiers publics ont tendance, et les experts, etc., ont tendance à capturer le pouvoir et à le dérober au public. Donc on a quand même deux analyses, même dans le diagnostic, extrêmement divergentes.
Edoui Plenel.
Oui, non, je pense que par rapport à ce que je sentais dans vos questions, Géraldine Mühlmann, qui est cette idée, au fond, quand même, ça tourne mal tout ça, et par rapport à cette foi.
C'est un public qui a élu Trump,
Et par rapport à cette foi et à ce pari ou cette prophétie autoréalisatrice, pourrait-on dire, qu'on sent dans la conviction humaniste et démocratique dont on parlait à propos de John Dewey. Mais je pense que nous vivons un moment où, quelque part, l'histoire a tranché. Ce que nous vivons a tranché. Le doute, le pessimisme, la méfiance qu'a porté Lippmann, et je le redis, ce congrès qui s'est tenu à Paris en 1938 et sa postérité dans ses différentes formes, hein, l'ordolibéralisme allemand que j'ai rappelé tout à l'heure, c'est l'idée, hein, la démocratie ne doit pas se mêler de l'économie, hein, du tout, le peuple ne doit pas se mêler, ça doit être sanctuarisé. Ça a donné quand même un texte qu'on a totalement oublié, mais qui est prophétique, hélas, sur notre époque, qui est ce texte de la trilatérale au début des années 70, qui est au fond, le peuple nous dérange, quoi, hein, et il faut s'en passer. Et du coup, ça a donné quoi ? Cette manque de confiance donne ce qu'on a appelé, tout d'un coup, on s'est dit, tiens, il y a de l'illibéralisme. Il y a des régimes illibéraux, c'est-à-dire des régimes issus du vote, qui deviennent des régimes autoritaires. Nous en avons en Europe, Monsieur Orban, et c'est le copain aussi bien de Poutine que de Trump. Et qu'est-ce que nous voyons ? C'est qu'à force de pas avoir confiance dans la dynamique complexe de la démocratie, dans l'invention complexe de la démocratie, dans l'intelligence collective des acteurs publics de la démocratie et d'une démocratie qui ne soit pas confisquée par des professionnels qui se résumeraient à l'élection, eh bien, c'est pas l'illibéralisme qui nous guette. C'est un nouveau fascisme, comme le dit très bien Robert Paxton, et nous l'avons sous les yeux. C'est ce que nous vivons, là, au cœur d'une puissance occidentale, et dans un monde de sauvagerie. J'y ai fait allusion sur le spectacle mondial que nous avons depuis un an, au nom de notre civilisation, hein, dite judéo-chrétienne, de manière, à mon avis, abusive. Eh bien, nous vivons ça, et nous vivons l'avènement d'un pouvoir, non pas illibéral, non pas simplement autoritaire, mais profondément fasciste, identitaire, et qui, du coup, lui, en effet, il est fidèle, de ce point de vue, à ce qui a inspiré les fascismes originels, Gustave Le Bon, l'âge des foules, hein, il ne connaît que la foule. Et il ne connaît que la manipulation de la foule, tout le monde l'a sous les yeux en allant sur X et en voyant ce que monsieur Elon Musk fait sur X avec ce côté la technophilie, hein, la fascination pour la technique qui va tout à fait avec la barbarie de la tradition et la violence réactionnaire. Et donc moi je pense encore une fois de oui, c'est une incitation au sursaut, c'est une incitation au pari pascalien, non pas à l'idée béate que le public serait bon, que le peuple serait bon. Non, l'origine ne protège de rien, mais à l'idée que c'est une construction. Et de ce point de vue, parlons-nous de notre responsabilité à nous, journalistes, on a une responsabilité dans ce contexte-là. Et ce qui me dérange un peu dans la posture lippmannienne, un peu, même si je sais très bien qu'il a lui-même eu une pratique de journaliste de terrain, je dirais, au départ, mais au bout d'un moment, c'est cette posture qui a gangréné par certains aspects notre métier, à mes yeux, qui est la posture du columniste, qui est la posture du commentateur, qui est la posture de celui qui dit ce qui est bon pour le peuple. Je pense, et comme vous le savez, je plaide pour ce journalisme qui fait surgir plutôt la nouvelle qui dérange, la nouvelle que souvent les institutions ne veulent pas voir, la nouvelle qui oblige à s'affronter. Et la presse elle-même est confrontée à cette bataille. La presse comme institution, la presse qui ne se laisse pas déranger ou qui ne va pas assez sur le terrain. Le New York Times est obligé de faire son autocritique à nouveau sur Trump. Ils n'ont pas été assez voir, comme ils étaient tombés dans le mensonge d'État au moment de l'Irak. Hein. Je crois qu'il y a une incitation à cette bataille, à être impliqué, à une inquiétude, source d'espérance, et la foi commune, ce texte, hein, de 34, je répète, n'est pas un texte naïf. C'est un texte qui invite à une implication démocratique, à un engagement. J'aime bien le mot espagnol pour dire l'engagement, compromiso, à se compromettre, hein, à rentrer dans cette bataille. Et je crois que c'est cela qui a politiquement, hein, comme message chez Dewey et chez Lippmann. Sa postérité ne plaide pas pour lui. Je pense que sa postérité est plutôt celle de ceux qui n'ont pas construit le barrage, la vitalité démocratique par rapport au fait qu'on peut, retomber dans l'abîme. Et nous l'avons sous les yeux aujourd'hui.
Joël Zask, vous voulez peut-être commenter l'échange qu'il y a eu sur Lippmann. Peut-être puis-je vous ajouter quelque chose à cet échange et vous commenterez l'ensemble. Robert Park, que vous avez plusieurs fois cité, Edwy Plenel, était quelqu'un qui devait à Dewey il le disait, le fait d'avoir pensé le public comme une unité, comme quelque chose de commun, et il n'y a pas de journalisme sans qu'on éprouve des valeurs communes. Parc le dit très bien dans plein de textes de 1938-39. Il n'empêche qu'en 1940-41, bien après la polémique entre Lippmann et Dewey, c'est Lippmann qu'il cite. Et il dit en 1941, c'était vraiment un remarquable essai, Liberty and the News, c'était un texte de 1920 de Lippmann. Cet essai visait à démontrer qu'un peuple ne peut préserver les libertés qui lui sont garanties par l'existence d'une société démocratique que si ses sources d'informations ne sont pas polluées par la propagande. Et là, il y a un petit côté qui intéressera aussi Hannah Arendt, qui est peut-être parfois, quand le public devient fou, diriez-vous, Edwin Plenel, en tout cas quand le public, c'est quand même lui qui a élu Donald Trump avec une nette majorité, et que des sources d'information sont en danger, puisque Trump traite à peu près tous les journalistes américains de qualité de fake news, il les insulte comme ça toute la journée, il faut défendre une certaine extériorité par rapport au public tel qu'il est devenu, des faits, du rapport à la vérité de fait. Il faut défendre une position d'extériorité, comme le dira Arendt plus tard, extériorité par rapport au royaume politique. Les faits ont besoin de gens qui se mettent dehors et qu'on soutienne. Qu'est-ce que vous en pensez, Joël Zask?
Ben, il y aurait, voilà, c'est très intéressant. Je pense qu'on est relativement d'accord les uns avec les autres, même. Que je pense que ça peut être utile de revenir un peu sur le rôle du journalisme et du journaliste dans toute cette nébuleuse, finalement, de la première moitié du XXe siècle aux États-Unis, ou en France d'ailleurs. Je peux penser à la création d'un journal auquel Lippmann, John Dewey, Crowley vont contribuer, qui est le New Republic. En 1914, mm-hmm. Si mes souvenirs sont bons, et qui se présente justement comme un journal qui est destiné d'une part à apporter des faits et d'autre part à servir d'accélérateur d'opinion. C'est un terme qu'on va rencontrer dans un peu l'acte de naissance de ce journal, de ce quotidien, qui va devenir ensuite un hebdomadaire. Et ce qui est important, c'est la séparation entre les deux. Mm. C'est-à-dire, et ce qu'on retrouve toujours d'ailleurs dans le journalisme américain dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'il y a des articles qui sont destinés à apporter un certain nombre de faits à la connaissance d'un public dispersé. De l'autre, il y a aussi un journalisme qui est destiné à servir, à alimenter la conversation ordinaire des gens au coin de la rue. Et ça, je crois que ça vient justement de Gabriel Tarde. Je veux dire, chez Gabriel Tarde, on a cette idée finalement qu'en 1901, donc là on est quand même un peu plus tôt, on a cette idée que la presse n'est pas destinée à dicter des opinions. La presse est destinée à créer une espèce d'intersubjectivité générale qui permettra aux gens, se sachant lire la nouvelle du jour en même temps que plein d'autres, de former une espèce de communauté de parole. C'est-à-dire que les gens lisent le journal, ils lisent le journal le matin, par exemple, et puis ils se retrouvent au café, ils se retrouvent dans la rue, ils se retrouvent dans ce que Gabriel Tarde va appeler, l'expression est un peu neutre comme ça, mais elle est très importante, des lieux où on cause. Des lieux où on cause. Et ça suppose, c'est un urbanisme approprié d'ailleurs. Donc ils se retrouvent dans des lieux où on cause, et là ils vont parler de cette nouvelle qu'ils ont lue, et c'est là qu'ils vont forger leur opinion. L'opinion publique, c'est ça. Et d'ailleurs, elle vient de là. Après, elle va pouvoir s'amplifier, grossir, se fédérer, s'amender, se corriger au contact d'autres faits, d'autres nouvelles, etc. Mais en fait, l'opinion publique, elle est conversationnelle. Il faut qu'on se parle et qu'on discute, en quelque sorte. Et d'ailleurs, Gabriel Tarde dit, c'est très simple, si vous voulez régner en maître, en despote absolu, supprimez les lieux où on parle, supprimez la possibilité même qu'ont les gens de se parler, et comme ça, il n'y aura plus de démocratie du tout, il n'y aura plus de liberté, il n'y aura plus de contre-pouvoir. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, donc je crois que c'est cette distinction entre la production d'un certain nombre d'observations qui doivent se signaler comme étant situés d'un côté et de l'autre, la production d'articles d'opinion qui servent à déclencher, en quelque sorte, une opinion, une conversation, elle me semble très très importante jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, je pense que Tard et John Dewey ont pas du tout, Walter Lippmann et John Dewey ont pas du tout la même conception de la vérité. Alors, et de la réalité. En fait, je crois que c'est aussi un peu le problème du journaliste. C'est-à-dire que Lippmann a, je pense, une vision assez classique et métaphysique de la vérité. Est vrai la proposition qui est en adéquation avec une réalité extérieure. Alors que John Dewey a une conception pragmatiste de la vérité. À savoir que la vérité est toujours liée à un processus de vérification qui, quant à lui, est toujours amendable et relatif à un processus de construction collective. En fait, je préférais dire communautaire, un processus de construction, comme dans les sciences. C'est une communauté d'apports, de connaissances, de techniques, d'opinions qui forment la vérité, ce qu'on pourrait appeler la vérité scientifique, qui est toujours relative à une vérification et qui est toujours provisoire. Et donc, du coup, la notion de public et de légitimité du public, c'est pas non plus la même. Et le rôle du journaliste n'est pas non plus le même, suivant que on considère que le journaliste doit apporter une vérification, ou suivant qu'il doit dire la vérité. Suivant qu'on considère que le public n'est articulé que s'il possède la vérité, et où est-elle d'ailleurs? D'où la critique du public chez Lippmann, parce que
Je ne vous oublie pas, mais Louis Plaine veut réagir, je crois, juste sur un point que vous venez d'évoquer.
Juste pour dire, parce que Tard, il parle au moment de la presse de masse, et depuis, nous avons la radio et la télévision de masse. Et quand vous parliez de la conversation, nous avons le blablabla des talk-shows qui nous dit, de ce point de vue, le texte fondateur, mais peut-être vous en avez déjà parlé dans votre série d'émissions, c'est évidemment Truth and Politics, le texte d'Anna Arendt de 67, c'est toute l'ambiguïté du mot vérité. La vérité construite comme une vérité d'opinion, de croyance, de préjugés, il y en a des raisonnables, il y en a des très folles. Et comme elle le dit, celle-là, le cerveau humain en produira toujours des milliers. En revanche, les vérités qui sont en danger, les plus fragiles, qui concernent aussi bien le présent que le passé, ce sont truth of facts, les vérités de fait. Elles n'ont pas un grand V, ce ne sont pas des vérités révélées, c'est le puzzle. En ce sens, on retrouve du oui sur l'enquête. L'enquête est elle-même la condition de sa vérité. C'est le processus de l'enquête qui construit sa vérité, la vérification, le recoupement, le texte, le contexte, etc. Et là, je pense qu'on est au cœur de notre présent. Aujourd'hui, c'est pas seulement le problème de fausses nouvelles ou de propagande. C'est que même le rapport au réel, à la vérité, est en péril.
Et donc peut-être qu'il faut protéger ces vérités de fait, parfois contre un public qui est emballé et dans une communauté, puisque c'est un terme de Dewey, qui n'a pas envie de les entendre. Vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr, le bon journal indépendant ou le bon média indépendant, c'est celui qui est prêt à déplaire à son public et à lui mettre sous les yeux des réalités qu'il ne veut pas voir. Mais attention, il n'y a pas d'abord le public, il y a les puissances. Le mensonge qui nous a projeté dans le monde que nous vivons il y a 20 ans, il ne vient pas du public. Il vient d'un État, il vient d'une puissance, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique. Le mensonge sur la corruption et la fraude fiscale qu'on ne veut pas voir. Regardez ce qui se passe sur la justice dans le débat d'aujourd'hui, où tous les politiques, de gauche à droite, viennent au secours de Madame Le Pen pour contrer l'indépendance de la justice. C'est pas le public, là. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous qu'un bon journal est celui qui est capable de ne pas être prisonnier de ses lecteurs et de un bon média, et de lui mettre sous les yeux des réalités pour qu'il pense contre lui-même. Mais notre premier adversaire, c'est quand même les puissances, quelles qu'elles soient, économiques et politiques et étatiques, qui, pour leurs intérêts, combattre la vérité, combattre...
Entendu, je vais laisser réagir sur ce que vous voulez d'ailleurs, Barbara Stiegler, parce qu'elle n'a pas parlé depuis un petit moment.
Je voudrais répondre à deux choses que vous avez dites, vous, Géraldine.
D'accord.
La première chose, c'est que vous avez dit, le public a élu Trump. C'est vrai du point de vue de Lippmann, du point de vue de la définition lippmannienne du public, qu'on a eu tout à l'heure, dans ce texte excellent que vous avez cité. C'est vrai, c'est le public qui a élu Trump. Mais du point de vue de Dewey, c'est pas le public qui a élu Trump.
Vous pensez,
oui. Non, C'est une masse d'individus isolés les uns des autres, réduits à l'impuissance, incapables de s'éprouver eux-mêmes parce que séparés par un État qui empêche, qui a capturé le pouvoir, en fait, qui a dépossédé le public de son pouvoir et de ses capacités. Mais c'est pas ce que Dewey appelle le public. Le public, c'est pas une masse d'individus amorphes, séparés les uns des autres, ou plongés dans un état de quasi-guerre civile. Le public, je répète, c'est cette expérience de se sentir ensemble un problème commun, etc. Donc, s'il y avait un véritable démos aux États-Unis, selon Dewey, qui pouvait se vivre comme un véritable démos, c'est probablement pas du tout un pouvoir effectivement fascisant qui aurait été élu, mais un pouvoir permettant à la démocratie de se déployer. Donc ça, c'était pour vous répondre sur cette question. Et la deuxième, c'est que j'entends bien que vous êtes séduite, et je vous comprends, par le plaidoyer de Lippmann pour l'établissement des faits, l'objectivité, la neutralité. J'entends ce que vous dites dans vos suggestions.
En tout cas, je mets ça dans la discussion.
Je comprends.
Si vous me permettez,
j'ai envie d'introduire
le sujet. Je ne suis pas dans un plaidoyer pour ma part.
Mais je comprends que vous soyez séduite par ces analyses de Lippmann. Mais je vais aller dans le sens de Joël Zask. Lippmann a une conception extrêmement fragile et profondément métaphysique de la vérité. C'est-à-dire
il est lui-même pragmatique, je vous signale. Hein. Il a été à la sauce de William James, peut-être pas non plus.
Bon, je répondrai. Et j'avais objecté à Bruno Latour.
Métaphysique de Lippmann.
J'avais objecté à Bruno Latour qu'il est. Alors je vais vous répondre. J'ai objecté à Bruno Latour qu'il est absolument pas pragmatiste. Il en a les atours, mais c'est pas parce qu'il a bulleté avec William James que ça l'a rendu pragmatiste. Donc philosophiquement, il est absolument pas pragmatiste pour les raisons que Joël Zask a rappelées, à savoir que pour lui, la vérité se contemple comme une espèce d'entité fixe. Elle se contemple et c'est seulement donc ceux qui font exception au public qui sont compétents qui peuvent la contempler. Et il n'a pas du tout une conception pragmatiste parce que la conception pragmatiste, c'est qu'il n'y a aucune vérité qui s'établisse autrement que par des actes, des actions et justement d'un public.
Et il parle de l'observation, voilà. du reporter de terrain.
Mais il a une conception complètement dualiste.
Je me permets juste de dire.
Il a une conception. Voilà. Je vais juste finir mon propos. Et donc pour vous donner une image très concrète, chez lui, ça va aller du début de son travail jusqu'à la fin, par l'idée que c'est finalement les gouvernants, les experts, ceux qui s'acceptent, ceux qui dirigent, les dirigeants, les leaders. Il appelle ça les leaders. Seuls les leaders ont une ampleur de vue suffisamment grande par leur rapport au business et à la mondialisation, peuvent voir la vérité. Et la vérité, c'est que nous devons mondialiser le marché et que nous devons nous adapter à la mondialisation du marché. Le problème, c'est qu'on a un public qui est totalement retardataire, inapte et incompétent. Et la solution de Lippmann, ça va être d'utiliser les industries culturelles pour adapter cette masse malléable et inapte à la mondialisation, et donc de manière, et il va appeler ça la démocratie, qui est en fait une pure démagogie, c'est-à-dire qu'on conduit le démos, agogé, démos, agogé c'est conduire vers, éduquer, on conduit les dirigeants conduisent le démos dans la bonne direction, c'est-à-dire dans la direction de la vérité. Et là, les journalistes se trouvent au service de cette fabrication
pris en otage,
consentement à la mondialisation, ce qui a été très bien décrit, me semble-t-il, par l'intervention d'Edoui Plenel tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils se trouvent pris effectivement en otage dans une industrie de fabrication du consentement à ce qui est considéré comme être la bonne direction, le bon discours, en l'occurrence l'adaptation de tous à un monde, à un marché mondialisé. Et du même coup, l'analyse de Lippmann au service de l'objectivité et de la neutralité en prend quand même, vous me l'accorderez, un sacré coup. Parce que en réalité, ce qui est le plus important chez Lippmann, c'est cette analyse des industries culturelles. Et évidemment, la première des industries culturelles, c'est pas le cinéma, même si il est concerné dans les analyses de Lippmann, c'est évidemment la presse. Donc, qui est au service de la fabrication du consentement. Donc, en fait, il y a chez Lippmann, et je finis là-dessus, une théorie positive de la propagande. Il y a une mauvaise propagande. Ok, vous avez raison. Et alors là, il sort l'armada de la neutralité, de l'objectivité quand ça ne lui convient pas. Mais il a une théorie de la bonne propagande. Et il s'est lui-même analysé comme propagandiste au service de la bonne cause. Et depuis le début, hein, dès la Première Guerre mondiale. Donc voilà, je voulais tempérer
caractère objectif. Je voudrais savoir ce qu'en pense Joël Zask, et je suis un peu navrée, je pense que ce serait la dernière intervention, nous arrivons au bout du temps de cette émission. Joël Zask, que voulez-vous ajouter?
Ben oui, là je suis vraiment complètement d'accord et raccord avec ce que vient de dire Barbara, c'est que je crois qu'aujourd'hui, effectivement, la question de qu'est-ce que c'est que la vérité, qu'est-ce que c'est que la réalité, ça doit vraiment être posé comme un gros pavé dans la mare, parce que c'est quand même beaucoup de ça dont on souffre. Et il y a à faire cette distinction entre, disons, les savoirs qui sont produits par les personnes directement concernées, qui sont engagées dans une enquête destinée à clarifier leurs propres conditions d'existence et à proposer des manières de remédiation, et cette connaissance experte, hein, faut bien voir que l'expertise, c'est quand même un corps de métier qui se crée au début du XXe siècle, dans les années 1910-1920, et qui est destiné à interposer entre le public incompétent et le gouvernement tout-puissant, un ensemble d'individus qui vont murmurer à l'oreille des princes. Enfin, c'est quand même ça, l'expert.
C'est le monde de McKinsey que vous êtes
exactement.
En train de décrire.
Exactement. Et donc, il y a une phrase de John Dewey aussi dans le public et ses problèmes, c'est que, et qu'on va retrouver aussi chez le sociologue Wright Mills, c'est que, qui était pragmatiste, c'est que l'expert, finalement, il n'expert de rien du tout. Il ne sait pas. Parce que c'est une chose d'être à la paillasse quand on est un scientifique et de faire des recherches. C'en est une autre de conseiller le prince et même la même personne, en tant que scientifique d'un côté, ou spécialiste, ou en tant qu'expert, c'est pas la même personne, en fait. Son rôle est différent. Et donc, je pense que ce qui est vraiment très important dans cette, ce qui écarte John Dewey et Lippmann, c'est que Lippmann croit en l'expertise, alors que John Dewey n'y croit pas. Et je pense que nous ne devons pas croire en l'expertise, parce que l'expertise, c'est précisément ce qui nous a amené dans cette situation de, catastrophique dans laquelle on est aujourd'hui.
On lit dans les journaux, les bandits sont dans la cité, mais jamais dans les journaux on ne parle des gens bien sages qui font du bien sans publicité. On lit dans les journaux, il l'aimait trop, il l'a tué, mais jamais dans les journaux on ne parle des bons ménages qui s'aiment bien sans se tuer. Allons, allons, messieurs les journalistes, pourquoi faut-il que vous soyez si tristes? N'y a-t-il pas autre chose dans la vie pour qui sait regarder que des spectacles moroses dont il convient de se garder? N'y a-t-il pas du soleil sur chaque maison pour qui sait regarder et toujours une raison de sourire et d'aimer? Ne me dites pas non. On lit dans les journaux mort affreuse d'un assassin, mais jamais dans les journaux on ne lit dans telle pouponnière 30 nouveau-nés se portent bien. On lit dans les journaux monsieur un tel est invendu, mais jamais dans les journaux on ne parle des gens honnêtes, on pourrait croire qu'il n'y en a plus. Allons, allons, messieurs, soyons sincères, il ne faut pas non plus qu'on exagère. N'y a-t-il pas autre chose dans la vie pour qui sait regarder que des spectacles moroses dont il convient de se garder? On devrait faire, je propose, des journaux dans un genre inédit où l'on dirait que les choses, les belles choses qui font aimer la vie.
Très jolie interpellation des journalistes. Parlez de nous un peu, dit René Lebas au journaliste avec sa jolie voix en 1947. C'est une chanson qui s'intitule « Messieurs les journalistes ». Je vous remercie beaucoup Barbara Stiegler, Joël Zask et Edoui Plenel pour cette discussion ce matin. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms qui cette semaine s'intéresse à l'erreur. Voici le pourquoi du comment.
Comment rattraper ses erreurs? Lorsque l'on dit que l'erreur est humaine, on est déjà sur la voie à la fois d'une explication du phénomène de l'erreur, qui est fondamentale dans la vie humaine, puisqu'elle est liée non pas à un défaut de savoir objectif, mais à une erreur dans le sujet même du savoir, justement, à un défaut, à une défaillance en nous, et non pas dans les choses que nous cherchons à connaître. Quand nous disons donc que l'erreur est humaine, nous ne sommes pas seulement dans la direction de l'explication de l'erreur, mais aussi de son excuse ou de son pardon possible lorsque l'erreur a entraîné non seulement un défaut dans la connaissance, ce qui peut déjà être très grave, mais par exemple des conséquences négatives sur d'autres êtres quand elle a entraîné des maux, du mal, quand elle est de l'ordre de la faute, voire du crime, même s'il est involontaire, puisque l'idée d'erreur comporte aussi l'idée qu'elle n'a pas été volontaire, l'idée qu'elle a dépendu seulement de notre faculté de connaissance, mais que si nous avions connu, bien connu, le bien et le mal, nous ne l'aurions pas fait. Et donc, d'une certaine façon, l'erreur est déjà du côté de l'excuse par opposition à ce que Vladimir Jankélévitch appelait le pardon. L'excuse est toujours quelque chose d'objectif. Je me suis trompé parce que ceci ou cela, il y a une raison, et alors on peut excuser, c'est-à-dire déployer la raison qui a expliqué l'erreur, alors que la faute est entièrement imputable au sujet. Le pardon ne consiste pas à excuser l'erreur par une raison encore plus ou moins objective, mais à reconnaître l'erreur et la responsabilité du sujet et à absoudre la personne pour une autre raison, une raison purement morale. C'est ce qui fait la grâce du pardon par opposition à la défausse de l'excuse. Excusez-moi, ce n'est pas ma faute. Rattraper ses erreurs, c'est toujours dire qu'il y avait là un défaut de connaissance, mais pas une profonde responsabilité morale. Bien sûr, chaque être humain, dans l'irrémédiable réalité du temps, dans l'irréversibilité de nos actes, tente à rattraper ses erreurs. Cela peuvent être des erreurs minimes, mais elles peuvent être irrattrapables, telle une erreur dans une copie du baccalauréat qui oriente ensuite toute une vie et qu'on ne cherchera pas toute sa vie à rattraper. Et il y a parfois des erreurs tragiques, la tragédie elle-même étant fondée sur ces actes explicables par des défauts subjectifs, peut-être par des volontés humaines ou même par un destin divin, mais qui font qu'il y a de l'irrattrapable dans la vie humaine. Alors comment rattraper ces erreurs sans passer seulement par la défausse ou le défaut de l'excuse et sans s'en tenir non plus à la reconnaissance de l'erreur, même si la reconnaissance est évidemment une étape majeure dans le rapport à soi, la reconnaissance dont la pathologie peut être aussi le remords, le retour à l'infini de la négativité de l'erreur, l'horreur de l'erreur sans cesse revenante qui vient nous hanter, qui vient sans cesse nous répéter « Comment as-tu pu te tromper ? Comment as-tu pu faire une chose pareille ?» Or, ce retour doit être, comme Naber l'a montré dans « Les éléments pour une éthique », la source d'une réflexivité qui se reprend. L'erreur fait partie, comme la faute, l'échec et la solitude, des expériences négatives qui fait que reconnaître une erreur doit toujours être la source aussi de la reconnaissance en moi d'une source d'erreur, mais aussi de savoir et d'amélioration possible. On peut rattraper des erreurs. Heureusement, il y a des erreurs compensables, des erreurs rattrapables, il y a des erreurs pardonnables, même s'il y a aussi des erreurs impardonnables, mais le fond du fond pour rattraper ces erreurs, ce n'est pas de courir après indéfiniment, c'est plutôt de comprendre la source de l'erreur en nous et d'y répondre.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique François Saint-Jour. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Chaïma Giboire, Philippine de Bellois et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.